you know what?
C'est donc le début, ce lundi, d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la philosophie du sport. Oxymore ou évidence ? Telle idée reçue, aussi tenace qu'indigente, voudrait que les deux, la philosophie et le sport, n'aient rien à se dire, que les philosophes négligent leur corps et que les sportifs négligent leur cerveau. Or, un tel lieu commun est lui-même l'avatar d'une séparation métaphysique du corps et de l'esprit, de l'autre idée reçue, selon laquelle le corps a ses raisons que la raison ne connaît pas. Les deux se tiennent pourtant des combats en brèche le fantasme d'une telle séparation au nom de la continuité psychosomatique des deux ordres. Le sport ou l'intelligence du corps mérite d'être pensé autant qu'il gagne à l'être par la philosophie, c'est-à-dire la gymnastique de l'esprit. Demain, mardi, le philosophe et tennisman Denis Grosdanovic sera notre invité pour évoquer la philosophie du tennis. Mercredi 1er avril, les nouveaux chemins de la connaissance accueilleront un invité surprise pour vous parler de Varap. Jeudi, c'est en compagnie de Thierry Taon, qui enseigne en terminale à Anglette, que nous parlerons de rugby. Enfin, vendredi, jour de vague à l'âme, nous parlerons de surf avec Frédéric Schifter. Autrement dit, le foot, la boxe, le golf et la randonnée, ce sera pour l'an prochain. Mais aujourd'hui, lundi, tout de suite, maintenant, c'est en guise d'introduction, en compagnie des philosophes Denis Moreau et Pascal Taranto, que nous allons passer 50 minutes, car nous leur devons, entre autres, un livre à quatre mains, tout à fait passionnant, intitulé « Activité physique et exercice spirituel », paru chez Vrin en 2009, dans la collection « Pour demain ».
Respirez, soufflez. On respire. Et on souffle. Le jeune homme est très courrier, si vous voulez bien faire comme tout le monde, merci. Vous êtes complètement à l'envers maintenant. Alors, les anciens pourraient donner l'exemple, merde, je m'excuse. Et on profite, on respire le bon air. Bon, alors, n'importe comment maintenant, arrêtez, cessez.
Bonjour Denis Moreau, bonjour Pascal Taranto.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux sur France Culture. Aristote définissait l'homme comme un animal politique, Rousseau le définissait implicitement comme un animal imparfait, Descartes en faisait un animal rationnel. Or dans un texte sur le parallélisme psychophysique, Bergson le définit comme un animal sportif. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous Pascal Taranto ?
Écoutez, a priori on pourrait voir là une formule qui pastiche un petit peu celle que vous venez de reprendre, animal raisonnable notamment, c'est une définition, hein, donc on a un genre animal, une espèce raisonnable, ici sportif. Alors peut-être qu'on n'a pas une définition essentielle ici, mais plutôt une définition par le propre. Que voudrait dire en effet qu'être sportif, c'est le propre de l'homme ?
Surtout, pardonnez-moi, animal raisonnable, c'est une contradiction, on pourrait dire, ou animal rationnel, c'est une contradiction. En revanche, animal sportif, on pourrait se dire qu'un animal qui est tout entier, corporéité justement, ou inscription dans un corps, a priori, la question même de sa sportivité ne se pose pas.
Oui, vous avez raison de dire qu'il pourrait y avoir une petite contradiction entre animal et raisonnable. C'est précisément cette contradiction que Bergson pourrait résoudre avec cette définition-là. Pourquoi ? Parce que justement, le caractère de raisonnable ou de pensée est un petit peu abstrait, alors qu'au contraire, si l'homme est un animal sportif, c'est parce qu'il a un cerveau. C'est-à-dire c'est parce qu'il a un organe polyvalent qui peut le libérer d'un certain nombre d'automatismes corporels, mais d'une manière qui est proprement d'abord physique. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un animal puis raisonnable, une sorte de séparation, une sorte de dualisme, mais il doit les conditions de sa libération et de l'acquisition postérieure du langage puis de la pensée au fait de posséder un organe extraordinaire qui est, dit Bergson, l'organe de sport, un organe de sport qui fait de l'homme cet animal sportif.
La faculté que possède l'animal de contracter des habitudes motrices est limitée, c'est Bergson qui parle. Mais le cerveau de l'homme lui confère un pouvoir d'apprendre un nombre indéfini de sports. C'est avant tout un organe de sport. Et de ce point de vue, on pourrait définir l'homme un animal sportif. Le premier de tous les sports, ajoute Bergson, est le langage. Cette fonction qui occupe un si vaste territoire dans le cerveau de l'homme. Le langage a été l'instrument par excellence de libération, en dépit de l'automatisme qu'il inflige ultérieurement à la pensée. Mais de manière générale, la supériorité de notre cerveau réside dans la puissance de libération qu'il nous donne vis-à-vis de l'automatisme corporel, en nous permettant de créer sans cesse de nouvelles habitudes qui absorberont les autres ou qui les tiendront en respect. En ce sens, on ne trouvera rien dans le cerveau qui corresponde à l'opération proprement dite de la pensée, et pourtant, c'est le cerveau humain qui a rendu possible la pensée humaine. Denis Moreau, qu'en pensez-vous ?
Je crois qu'il ne faut pas donner trop d'importance à cette définition bergsonienne de l'homme comme animal sportif. On voit bien dans le texte que vous avez cité que c'est peut-être sur le mode du pastiche d'une définition classique qu'elle est avancée ici. En revanche, et même en donnant, comme le fait Bergson dans ce texte-là, un sens très large au terme de sport, il me semble que ça indique que, comme quand on définissait l'homme par son propre, par le rire par exemple, le sport ou l'activité sportive est une caractéristique marquante, intéressante de l'humanité, et que ça fournit un bon chemin pour aller réfléchir à nos petits problèmes ou nos petites difficultés d'être humains. Et donc, définir l'homme comme animal sportif, c'est peut-être en s'installant sur ce terrain d'expérience particulier qu'est l'activité sportive, se donner les moyens d'une réflexion, sinon inédite, du moins singulière, sur certaines possibilités ou certains aspects de l'humanité.
Denis Moreau, c'est l'expression terrain d'expérience qui est passionnante ici, je crois. Parce que si vous parlez de terrain d'expérience, pour reprendre ce que disait Pascal Taranto, on est avec le sport en présence d'une activité qui tend à abolir la solution de continuité entre le corps et l'esprit, finalement, et à intégrer le corps à l'esprit, ou intégrer l'esprit, corporeiser l'esprit, ou spiritualiser le corps. Il y a la dissociation, j'allais dire cartésienne, du corps et de l'esprit, hein, je le dis à dessein puisque je vous sais amateur de Descartes, ce qui n'est pas mon cas, la dissociation cartésienne, arbitraire, spécieuse du corps et de l'esprit est ici battue en brèche par l'intégration du corps dans l'esprit et réciproquement.
Oui, je vais répondre en philosophe d'abord et en cartésien ensuite.
Allez-y, on va s'engueuler.
Il est clair que la pratique d'un exercice physique ou de ces exercices physiques qu'on appelle sport amène à prendre des positions sur des problèmes classiques philosophiques comme ceux que vous venez de mentionner, celui de la relation du corps et de l'esprit notamment. Si on veut être moderne, on dit le mind-body problème, mais c'est la même chose. Je crois qu'on ne peut pas être rudement et catégoriquement dualiste quand on pratique un sport. Il resterait à savoir s'il y a eu de bons philosophes pour être rudement et catégoriquement dualiste. Et il me semble que Descartes, par exemple, n'est pas un philosophe rudement et catégoriquement dualiste, au
on
sens où il explique que nous sommes l'union très étroite d'un esprit et d'un corps, et c'est ça peut-être une des premières conclusions qu'on peut tirer de l'exercice sportif, c'est cette affirmation de l'unité de l'être humain, unité duelle, unité scindée, unité qui effectivement est celle d'un esprit et d'un corps très étroitement réunis, mais non pas confondus.
Mais est-ce que le sport n'aurait pas en commun, par exemple, avec la pratique de la musique, avec la pratique, en somme, avec tout ce qui suppose de la part de l'amateur ou de celui qui s'exerce des habitudes, des exercices, comme des exercices spirituels, hein, je vous reprends l'expression ici, est-ce que le sport n'est pas justement de ces disciplines qui ont pour effet d'abolir justement cette scission une fois pour toutes, Pascal Taranto ?
Oui, je pense que l'expérience de la dissolution de cette scission artificielle se voit dans le corps vécu comme volonté. C'est-à-dire se dresser soi-même par l'exercice et l'entraînement, que ce soit l'entraînement de la main du sitariste ou que ce soit l'entraînement de la main de l'archer, si vous voulez, c'est toujours une possibilité pour soi de dépasser un certain nombre de limites du corps par une volonté tendue vers un certain but. Donc effectivement, et donc l'acquisition d'un art. Donc effectivement, là-dedans, on apprend la lente incorporation d'un geste particulier. Et le sport, de ce point de vue, est ressorti à l'art.
Et donc on accède surtout à de l'impensé. Vous êtes boxeur, Pascal Taranto, vous avez été
J'ai fait un peu de boxe.
Vous avez fait un peu de boxe, donc vous avez fait de la corde à sauter.
Oui.
Donc vous savez mieux que personne que la corde à sauter est un exercice extrêmement douloureux les 5 premières minutes et qu'ensuite on ne sent plus son corps et que les automatismes, quand les pieds se prennent dans la corde à sauter et qu'il s'agit de reprendre le mouvement, les pieds continuent à bouger, à suivre le rythme de la corde à sauter même si la corde est au sol.
Oui, c'est un état dont parle Jean-François Balaudet, transposé dans un autre sport qui est le cyclosport, dans son essai sur le cyclosport, où il parle d'un corps dépensant à un moment donné pour expliquer ce que c'est qu'un corps qui...
Très belle expression ça, le corps dépensant.
Qui l'oppose au corps pensant, qui est un corps qui dépense toute son énergie, donc qui est en dépense énergétique, et qui, parce qu'il dépense son énergie, dépense, c'est-à-dire ne pense plus, ou un corps dans lequel la pensée se concentre, n'est plus que muscle ou fibre douloureuse. Donc effectivement, on connaît ça. On connaît aussi dans ce moment-là une sorte de libération, mais qui est un état second. alors que les physiologistes pourraient rapporter aux endorphines ou ce que vous voulez, mais que les sportifs connaissent bien comme une espèce de jouissance qui est d'avoir passé un certain seuil de douleur, effectivement.
Une forme de second souffle. Alors on le retrouve très particulièrement, j'imagine, Denis Moreau, dans la question de la course à pied. Vous avez dans le livre écrit un article intitulé « Courez pour gagner », qui est une phrase de saint Paul qu'on trouve dans la première lettre aux Corinthiens.
Une phrase de saint Paul qu'on trouve dans la première lettre aux Corinthiens.
Ouais, c'est la course à pied selon saint Paul. Alors, je le dis ici, hein, ça se trouve dans votre livre, dont je redonne le titre pour ceux que ça intéresse. La course à pied selon saint Paul, on le trouve dans Activité physique et exercice spirituel, Chevrin, donc, Denis Moreau.
Alors, il se trouve que saint Paul, c'est un auteur de l'Antiquité, qui, comme la plupart des auteurs, des philosophes de l'Antiquité, est quelqu'un de frotté par la culture sportive, hein, c'est l'époque des Jeux et tout. Et donc, assez spontanément, lui viennent sous la plume, à plusieurs reprises, des références sportives. Il compare le chrétien, ou peut-être tout simplement l'homme, au coureur, au lutteur et au gymnaste. On a effectivement un certain nombre de textes sur la course à pied, alors qui pose bien la question en fait du statut de ces comparaisons sportives dans les textes de philosophie. Il s'agit de savoir si c'est juste une espèce de jeu rhétorique pour capter l'intention de l'interlocuteur, ou si c'est plus, s'il faut pousser la comparaison, et si en la poussant on peut comprendre des choses sur le statut de l'être humain.
Ne savez-vous pas que dans le stade les coureurs courent tous, mais qu'un seul gagne le prix? Courez donc pour gagner. Tous les athlètes s'abstiennent de tout. Eux, c'est pour une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours ainsi, je ne vais pas à l'aveuglette et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide, mais je traite durement mon corps et le tien assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Vous ajoutez, Denis Moreau, dans votre article, là c'est du saint Paul, hein, qu'on vient de lire,
ça, c'est, hein, du saint Paul.
Et ça c'est du saint Paul, vous ajoutez dans votre article, vous dites ceci: l'image du coureur fut soigneusement sélectionnée par un rédacteur qui savait de quoi il parlait. Elle a donc été choisie non seulement pour rejoindre le bagage culturel des destinataires du texte, mais aussi en raison des convictions, voire des pratiques de son émetteur, et elle mérite en tant que telle un décryptage attentif, et vous en parlez comme d'un modèle.
J'en parle comme d'un modèle.
Saint Paul, le marathonien saint Paul.
Alors, marathonien, probablement pas, ouais. Ça n'existait pas à l'époque comme épreuve sportive, mais il y avait des épreuves sportives dans l'Antiquité de course d'endurance, hein, où jeu figurait ce qu'on s'appelle le dolichos, ça faisait environ 5000 mètres. Platon parle d'une course de 18 km, donc il est bien attesté que ça existait. Il me semble que dans ce texte-là, comme dans d'autres, hein, ça vaut la peine de prendre au sérieux la métaphore, de faire cette sorte de pari interprétatif qui consiste à décrypter la comparaison pour lui donner du sens. Alors, peut-être on peut distinguer deux niveaux de lecture, si on considère qu'il est question de course d'endurance. Il y a un niveau général, bon, qui amène à dire des banalités sur le sport, mais qui sont des banalités qui, à mon avis, gardent leur part de vérité. L'intérêt de l'entraînement, de la répétition, de petits gestes qui peuvent paraître anodins, mais qui finissent par avoir une efficacité. L'intérêt d'une certaine forme de privation ou d'ascèse, qu'on retrouve dans le sport comme dans la vie spirituelle. Et puis alors, si on veut aller plus loin dans le décryptage de la comparaison, en considérant qu'il s'agit précisément d'une course d'endurance, on pourra, par exemple, donc, partant de l'expérience du coureur d'endurance, j'invite ici les auditeurs qui veulent comprendre Saint-Paul à chausser leurs baskets et à aller courir. C'est sans doute la meilleure solution pour voir de quoi il s'agit. Comprendre que Saint-Paul nous conseille de faire attention aux départs impétueux. Quand on part trop vite en course d'endurance, eh bien, les choses se passent mal par la suite. Comprendre que Saint-Paul estime que la spontanéité est mauvaise conseillère. Quand on court, comme on dit, aux sensations, en course d'endurance, ce n'est pas bon et on gâche sa course. Comprendre aussi peut-être que saint Paul, contrairement à l'image qu'on a d'un certain christianisme, explique que la souffrance n'est pas à rechercher pour elle-même. Quand on souffre en course d'endurance, ce n'est pas bon signe. C'est signe que les choses vont mal se passer. Et puis enfin, peut-être...
Donc il y a un antidolorisme paulinien que vous déduisez de son rapport à la course à pied.
Je pense que si on fait l'hypothèse que saint Paul prend au sérieux le modèle de la course à pied pour donner exemple de ce qu'est sa conception de la vie spirituelle, effectivement, ça amène à une forme d'antidolorisme, en tout cas l'idée que la douleur ne peut être qu'un moyen et en tout cas jamais une fin.
Fantastique. Tout à l'heure, Pascal Taranto parlait de ce, je ne sais plus si vous employez l'expression de second souffle, mais enfin, au moment de la corde ou la corde à sauter ou la course à pied, donc, hein, ce passage à un état, une forme de jouissance, les endorphines, diraient les psychophysiciens. Alors ici, vous parlez, Denis Moreau, vous allez au-delà, hein, de l'endorphine, vous allez vous pousser même un peu loin, peut-être, vous allez jusqu'à faire une théologie de la course à pied en expliquant expliquant que la description, je vous cite, hein, la description du corps glorieux serait une transposition de l'expérience de l'extase du coureur de fond. Donc le corps de gloire lui vient du coureur de fond.
J'explique en deux minutes ce
dont il
s'agit.
Je vous en prie, c'est pour ça que je vous en parle. Oui,
vous savez qu'en théologie chrétienne, ce qu'on interprète souvent comme la survie après la mort, en fait, c'est la résurrection des corps. Donc il y a cette idée que dans la forme de vie qui vient post-mortem, il y a une dimension corporelle. Alors saint Paul, quand il décrit ça, décrit donc, c'est au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, des corps glorieux, incorruptibles, pleins de force et spirituels, des espèces de supercorps assez étonnants. Et ça intrigue beaucoup les interprètes qui ne voient pas très bien d'où ça sort. Alors je fais l'hypothèse, à la limite du farfelu, mais c'est pas grave, il n'y a rien qui m'interdit de la faire, que c'est une transposition de ce qu'on pourrait appeler l'extase du coureur de fond. C'est ce dont parlait tout à l'heure Pascal Taranto. C'est un état auquel on parvient après un assez long effort d'endurance qui, physiologiquement, correspond à une libération d'endorphine, où on a la sensation d'accéder à une forme de corporéité supérieure. Non pas l'abolition de la corporéité, mais le corps et âme parfaitement ensemble, parfaitement réunis. Une expérience euphorique de notre condition incarnée. Et je pense que ça donne peut-être une bonne idée de ce que saint Paul entendait par les corps glorieux.
Mais on retrouve ici peut-être un dolorisme dont la récompense serait immanente chez saint Paul, qui serait, alors là pour le coup, Pascal Taranto, je me tourne vers vous, un dolorisme, en gros on commence par souffrir avec en tête la perspective de la suppression de la souffrance, finalement une douleur rendue d'abord supportable par la perspective de ne plus avoir à souffrir ensuite. Quand on court au début, on a mal, on étouffe.
Oui, c'est très certainement. Moi, je ne pourrais jamais vous dire que la douleur est une fin en soi, c'est sûr. Si on peut l'accepter, ce n'est qu'à la condition qu'elle nous fasse accéder à un état supérieur. Et quel état supérieur plus agréable, plus jouissif, pourrait-on dire, y a-t-il que de se sentir parfaitement corps et âme réunis dans une expérience unique, se saisir comme ça. Donc, oui, effectivement, la douleur ici serait celle que tous les sportifs connaissent quand ils se livrent à un sport d'excès, un sport d'endurance extrême, qui consiste à entretenir un instant l'image de ce que serait ce corps glorieux si on veut se placer dans un imaginaire chrétien qui donne sens, si vous voulez, à cette expérience-là.
Alors restons dans un sport douloureux. Denis Moreau, vous vouliez ajouter quelque chose?
Il me semble que c'est un des aspects où on voit qu'il peut être intéressant de réfléchir sur le sport. Il me semble que dans notre culture ou notre société, l'idée que la douleur est quelque chose d'absolument inutile et totalement injustifiable est assez répandue. Et il est difficile de penser le contraire, alors qu'on voit bien, quand on déplace la réflexion sur le terrain du sport, que bien entendu, dans certains cas, sans tomber dans le dolorisme, mais des douleurs, des privations ou des efforts pénibles peuvent se justifier par une fin supérieure. Et pour cette idée qui est devenue, je crois, comme on dit, difficilement audible à certaines oreilles contemporaines, le déplacement sur le terrain sportif permet de faire sentir les choses.
Alors on va rester justement dans la douleur, non plus la douleur de l'entraînement, mais la douleur du match lui-même. Et on va parler de boxe un instant avec vous, Pascal Taranto, qui savait donc mieux que nous de quoi il s'agit. Ici, on va entendre le commentaire d'un match de boxe qui oppose Marcel Cerdan à Hassan Diouf. Commentaire de Robert Chapat, déjà. On est le 30 novembre 1945 au Veldiv, écoutez.
Troisième reprise. Hassan Diouf d'entrée encaisse un crochet du droit, puis un autre crochet du droit. Il va dans les cordes, un crochet du gauche et il tombe. Il tombe de nouveau, les bras en croix. Cette fois, j'ai l'impression qu'il ne veut pas se relever. Peut-être le pourrait-il, mais j'ai l'impression qu'il abandonne en ce moment le combat un peu volontairement, car il sent qu'il ne peut rien faire. Il se relève à peine au moment où l'arbitre compte 10, et c'est la fin. Hassan Diouf, qui veut se relever pour serrer la main de Cerdan, retombe comme une masse. Il tombe sur son séant et Cerdan est obligé de le transporter lui-même dans son coin. C'est une fin lamentable pour ce pauvre Hassan Diouf, mais c'est véritablement une victoire glorieuse et sensationnelle de plus au titre de Marcel Cerdan.
We'll be right back.
Denis Moreau et Pascal Taranto sont nos invités aujourd'hui pour commencer à entamer cette semaine sur la philosophie du sport dans les nouveaux chemins de la connaissance. On vient d'entendre un extrait de la victoire de Marcel Cerdan sur Hassan Diouf, on est en 45, et ponctué évidemment, ça s'imposait par la bande originale de Rocky. C'est Rocky 3, le moment où Rocky, le film dans lequel Rocky reconquiert un titre perdu contre l'ignoble Clubber Lang. Pascal Taranto, vous avez vu les Rocky?
Évidemment.
Non. On dit souvent, d'ailleurs c'est tout l'histoire de ces films, c'est que ce sont des films d'amour où il gagne avec son cœur. Hein. C'est le cœur et le mental qui lui permettent de reconquérir et de surmonter les obstacles et les épreuves qui sont les siennes. Est-ce qu'on est avec ce modèle-là, finalement? Est-ce qu'on reconduit ce qu'on disait au début de la conversation, à savoir d'une incorporation de l'esprit dans le corps ou d'une spiritualisation du corps? Rocky a cette particularité d'être moins fort que ses adversaires, mais insensible à la douleur.
Alors, je ne dirais pas qu'il est moins fort que ses adversaires, je dirais qu'il a quelque chose de plus que. C'est-à-dire qu'il a une capacité.
Une fausse patte. Hein.
Ouais, et puis il a une capacité que Sartre décrit très bien dans La critique de la raison dialectique, à savoir que c'est un boxeur encaisseur qui se dévoile pour pouvoir mieux frapper à un certain moment. Donc il reçoit beaucoup, il donne peu, mais quand il donne, c'est très dur.
Vous avez cité Jean-Paul Sartre, Pascal Taranto. Jean-Paul Sartre lui-même était boxeur amateur. Il emmenait, quand il était professeur en terminale au Havre, ses élèves prendre des cours de boxe. Albert Pal, notamment, qui avait eu la chance de l'avoir comme professeur, raconte qu'un jour, il lui a mis un mauvais direct, qu'il a étalé son prof de philo, Jean-Paul Sartre, qui lui-même recommandait donc à ses élèves de faire de la boxe. Revenons-en à cette histoire de Rocky, justement, et à cette aptitude à la douleur, à cette incorporation de la douleur. On a dans l'extrait tout à l'heure, commenté par Robert Chapat, Hassan Diouf qui s'effondre sous les coups de Marcel Cerdan, qui manifestement ne veut pas se relever. Dans quelle mesure peut-on, si le sport est une spiritualisation du corps ou une corporéisation, je ne sais pas comment on dit, de l'esprit, quel statut fait-on à la volonté en sport, en particulier dans la boxe d'ailleurs? Parce que la volonté est pressante, enfin, on désigne souvent la volonté comme ce qui dépasse justement l'ordre corporel, ce qui nous permet de le transcender.
Pour cette question précise, je dirais que le match est le moment où la volonté se réalise. Parce qu'en réalité, elle a déjà fait avant un corps de boxeur. Elle a permis d'acquérir un certain nombre d'arts, de techniques qui permettent à la boxe d'échapper à la simple bagarre ou de n'être pas simplement qu'une rixe. On peut dire que donc, quand le boxeur arrive sur le ring, il est déjà corps fait, corps sculpté par la volonté et précisément par l'acquisition d'une technique. Bien sûr. Donc c'est en quelque sorte, le match est un moment de vérité, où deux volontés s'affrontent plus que deux corps, en réalité. Dans le match, il se passe quelque chose de très intéressant, c'est ce moment qui montre bien, d'une certaine manière, l'ambiguïté éthique de la boxe, ici. C'est le moment où le boxeur ne veut pas se relever, il tente de le faire quand même, il ne le peut pas, et c'est son adversaire qui va le chercher pour le mettre dans le coin, dans le ring. Le match est terminé, et donc là, les deux boxeurs se regardent comme des gens qui viennent de donner une représentation de quelque chose qui est fondamentalement ambivalent, c'est-à-dire à la fois l'exemple d'un courage extrême, et en même temps l'exemple de gens qui viennent sur le ring se battre et se livrer à une sorte de violence fondamentale. Donc, pour en revenir à Rocky, ce que vous disiez tout à l'heure, qui m'a amusé un peu, Robert Chapat dit « il tombe les bras en croix ». Rocky est une espèce de personnage christique, mais en quelque sorte, c'est un Christ qui ne voudrait pas mourir. Il veut ressusciter à chaque fois. Donc, chaque fois qu'il descend, il tend la joue gauche, hein, la droite, il descend, il se relève.
Oui, il n'arrête pas de menacer ses adversaires. Il leur dit « mais ma mère frappe plus fort que toi ».
Ma mère frappe plus fort, donc en général, il en prend plein, hein, puis et jamais il ne se couche.
Alors, il épuise ses adversaires. La stratégie de Rocky consiste à épuiser les adversaires. En somme, les adversaires sont plus fatigués des coups qu'ils donnent que des coups qu'ils reçoivent.
C'est vrai. Et ce que vous aviez dit au début, quand vous parliez de l'amour, hein, c'était quand vous regardez la fin des Rocky, il se précipite toujours vers sa femme en criant Adrienne, qui est sa femme.
Adrienne.
Voilà. Je ne vais pas vous le refaire, mais.
Allez-y, bon. Allez-y.
Adrienne.
Bravo. Voilà.
Bien.
Vous êtes sur France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Allez-y.
Voilà. Donc c'était Rocky. Et donc c'est l'amour plus fort que la mort, d'une certaine manière. Hein, puisqu'il se relève toujours pour alors sauver sa femme, etc. Donc la boxe, je pense que c'est une sorte de laboratoire de sentiments moraux. Et du reste, quand vous avez signalé que Sartre était boxeur, vous pouvez très bien le voir dans la critique de la raison dialectique, où les commentaires qu'il fait sur la boxe ne sont pas du tout ceux qu'on attendrait d'un philosophe qui serait simplement critique à l'égard de la boxe, soulignant l'extrême violence, la marchandisation des corps, l'aliénation des corps. Il le fait par ailleurs, mais en même temps, on sent une tendresse sous-jacente dans toute une série de notations qui montre bien qu'il y a au sein de la boxe quelque chose de plus fondamental que le simple régime de marchandisation dans lequel la boxe moderne, avec ses managers, ses combats marrons, etc., peut baigner.
Alors justement, venons-en justement à la question de la marchandisation du sport. Comment faire échapper le sport à la critique finalement marxiste qu'on peut en faire, à savoir d'un espace tout entier gangréné par la fabrication de produits, la marchandisation et le dopage qui s'ensuit, et ainsi de suite. Denis Moreau.
Alors, qu'il le soit gangréné par la fabrication de produits, la marchandisation, le dopage qui s'ensuit et toutes ces choses-là, c'est absolument incontestable que c'est devenu une machine à profit épouvantable. La question est de savoir si c'est une nécessité d'essence, si le sport ne peut pas être autre que ça et n'est que cela, ou si c'est un dévoiement de ce qu'est le sport. Il me semble que ce n'est qu'un dévoiement. Alors on peut faire une analogie assez facile, mais depuis 40 ans, on observe également une marchandisation de la sexualité qui est devenue un objet de consommation et de profit sous diverses formes.
Certains n'hésiteraient pas à y voir un dévoiement de la sexualité elle-même.
Hein. C'est sans aucun doute un dévoiement de la sexualité elle-même, mais ce n'est pas, du moins à mon sens, une raison pour renoncer à sa pratique. C'est la même chose pour le sport. C'est-à-dire une fois qu'on a dénoncé le sport spectacle, le sport business, sans doute à l'échelle macro-sportive, on va dire, ou collective, il reste de la place pour une pratique du sport qui se saisit réflexivement et de façon individuelle et fournit là un objet de réflexion. Et ça, je pense que ça passe à travers les dénonciations, on va dire, socio-critiques du sport. Il y avait un très bon exemple, si vous me permettez de donner, au moment du Mondial 1998, Charlie Hebdo avait sorti un hors-série très drôle qui s'appelait L'horreur footballistique. C'était un clin d'œil qui était...
Ah, Viviane Forrester, qui avait publié L'horreur économique.
À l'époque, je vous lis quelques titres d'articles dans ce hors-série. Le foot me broute, con comme un ballon. F comme foot, N comme nazi, le foot rend con, l'économie de marché a déjà remporté la Coupe du Monde, etc. Alors c'est vrai tout ça, c'est vrai, mais on était quand même un certain nombre à se dire à l'époque, y compris parmi les gens qui apprécient ce genre de publication, mais il est où là-dedans le plaisir que nous avons pris quand nous étions gosses à jouer au football tous ensemble? Ça, ce hors-série de Charlie Hebdo n'en parlait absolument pas. Et puis nous avons aussi été un certain nombre à nous dire, après, même si ça a sans doute été un moment un peu curieux et sous certains aspects frelaté, ce numéro de Charlie Hebdo, il n'a pas parlé, il est passé à côté de cette espèce d'extase collective qui a suivi la victoire de la France.
On pourrait citer une autre une de Charlie Hebdo, d'ailleurs un ballon de foot en forme de visage de Bernard Tapie, je me souviens, et dont le slogan était, la légende, c'était le sport pourrit l'argent, qui était une façon intéressante de regarder la chose. Alors, venons-en justement au cœur du problème et à la question qui sous-tendait celle que je vous ai posée, Denis Moreau. En somme, c'est ce que vous posez dans votre introduction, Denis Moreau, Pascal Taranto, dans votre introduction donc à ce livre, hein, dont je redonne le titre, Activité physique et exercice spirituel chez Vrin. Vous dites que face à la question des valeurs et du sport, on se trouve placé, pardonnez-moi, face à deux discours contradictoires. D'abord un discours idéaliste, celui des vraies valeurs de l'esprit sportif, que le sport serait porteur de hautes valeurs individuelles, maîtrise de soi, respect, justice, de hautes valeurs collectives qui en font un outil d'éducation, de promotion. Et un second type de discours, celui que vous désignez comme un discours hargneux, celui d'une sociologie critique du sport qui dirait qu'en somme le sport c'est l'expression du système capitaliste et de ses valeurs de domination, de compétition, de sélection, de rendement et de performance. Alors on a, en choisissant les archives pour les besoins de cette émission, retrouvé un extrait de Marie-Georges Buffet, qui est à la fois idéaliste et marxiste, qui à l'époque, ministre de la Jeunesse et des Sports, s'exprimait sur le Mondial. On est en 98, elle est interrogée par Gérard Courchel sur France Inter. Écoutez ce qu'elle dit.
Il y a eu un effet mondial. Pensez-vous que cet effet peut se prolonger au-delà de la compétition ?
Écoutez, c'est un événement sportif, il ne faut pas lui en faire dire plus, mais je pense quand même que cette sorte d'envie d'être ensemble, d'envie de participer, de partager des moments de bonheur en commun à travers le sport, il faut qu'on lui donne des suites. Moi, j'ai déjà décidé de renouveler toutes les initiatives qu'on a tenues autour de la Coupe du Monde en 1999 pour déboucher sur une grande fête du sport et de la jeunesse fin 99. Il y a envie certainement d'aller au stade, donc il faut faciliter l'accès au stade. On va travailler peut-être avec les partenaires de la carte jaune pour que la carte jaune, comme pour les musées, permette des entrées à tarifs très réduits dans les stades. Voilà, il y a plein de pistes qui sont ouvertes, il faut les poursuivre.
Petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door.
Denis Moreau et Pascal Taranto sont nos invités aujourd'hui pour entamer une semaine sur la philosophie du sport. Donc, ils sont l'auteur, ils ont rassemblé une série de textes sous le titre « Activité physique et exercice spirituel », un ouvrage passionnant, paru chez Vrin en 2009. Alors, Denis Moreau, Pascal Taranto, on vient d'entendre Marie-Georges Buffet, puis Gloria Gaynor, évidemment, l'hymne du Mondial 98, et Marie-Georges Buffet commentant la victoire de l'équipe de France. Alors, il faut prendre au sérieux les déclarations de celle qui était à l'époque ministre de la Jeunesse et des Sports. Elle parle d'une envie d'être ensemble, d'une envie de partager, d'une envie d'aller au stade. Il me semble qu'il y a deux oublis dans ce qu'elle dit. Deux oublis, peut-être des propos qui seraient moins consensuels que ce qu'elle tient. D'une part, c'est que le sport est une affaire de compétition, c'est quand même la loi du plus fort, c'est quand même que le plus fort gagne. Et deuxièmement, cette envie d'aller au stade désigne aussi peut-être, Pascal Taranto, je ne sais pas ce que vous en pensez, une fascination morbide presque pour ce qui ressemble à des jeux du cirque.
Bon, alors, pour ce que vous avez proposé comme extrait, d'abord, il faut bien voir que tout cet extrait est déterminé par la position de Mme Buffet, qui est ministre à l'époque. En tant que politique, ce qu'elle recherche, c'est la cohésion sociale. Donc là, on a un exemple parfait de l'instrumentalisation du sport par le politique, qui veut le faire servir à des fins de cohésion, mais aussi à des fins éducatives. Bon, il y a un problème dans les banlieues, on va leur faire un stade. Bon, alors, de ce point de vue-là, il est détestable de voir que les problèmes sont pris par le petit bout de lorgnette. On est bien d'accord. Donc, profiter d'une fascination, morbide ou pas, mais d'une fascination de la jeunesse pour le sport, essayer de surfer sur la vague de l'enthousiasme post-victoire en 98, je dirais que c'est de bonne guerre pour un politique, mais ça parle moins du sport, finalement, que de la pratique de la politique comme architectonique, c'est-à-dire qu'il cherche à se subordonner toutes sortes d'activités. On est bien d'accord là-dessus. On relèvera qu'elle parle d'envie essentiellement. C'est-à-dire elle s'adresse à ce qui est dans les gens et le moins raisonné. Donc c'est un désir qui est suscité bien évidemment par la vague médiatique ici. Pour ce qui est de la compétition et de la fascination qu'on peut éprouver...
Je n'ai jamais entendu Marie-Georges Buffet dire du sport que c'était la loi du plus fort. Or c'est quand même le cas.
Oui, alors qu'en plus, en tant que ministre communiste, elle aurait pu tout à fait se brancher sur une certaine ligne de critique qui voit dans le sport, en fait, l'expression la plus parfaite du capitalisme marchand. Elle aurait pu le faire, mais elle a accepté d'être ministre, donc elle ne peut pas se priver de cet instrument, dont elle sait quel pouvoir il a sur les masses et sur la jeunesse, bien sûr. Donc elle cherche à l'impulser. Mais maintenant, je pense que c'est caractéristique, ça, de l'ambiguïté que vous releviez au début. Il y a en effet deux discours possibles sur le sport. Le premier qui y voit, comme Marie-Georges Buffet, ici, cette espèce de fête, de fair-play, de promotion des valeurs sociales, etc. Puis un autre discours qui serait beaucoup plus critique, qui est celui que vous avez amorcé en disant « c'est la loi du plus fort, la compétition qui l'emporte », et donc c'est les gens qui vont au spectacle, veulent voir des morts, veulent voir du sang, etc. etc. Moi, je dirais que ces deux façons de voir le sport, en fait, en réalité, se réduisent à un même présupposé implicite, qui est un présupposé moraliste. C'est celui qu'on tient quand on dit que le sport est gangréné. Parce que pour que quelque chose soit gangréné, il faut qu'il y ait à la base un organe sain. Donc c'est l'idée quand même qu'il y a un sport, ouvrez les guillemets, sain, aussi bien pour celui qui le dénonce, comme étant un mal, que pour celui qui en fait l'apologie en disant « c'est très très bien ». En réalité, c'est peut-être ça qu'il faut remettre en question. Il y a peut-être dans le sport le reflet d'éléments humains qui sont profondément irréductibles à une vision morale. Par exemple, il se pourrait très bien qu'il y ait dans le sport des éléments fondamentaux de violence ou d'excès, c'est-à-dire une démesure propre, une hubris, si vous voulez, qui soit totalement irréductible. Alors, qu'on puisse la réduire quand on est un politique et qu'on dise à ce moment-là « oui, ben, le sport, ça doit être la fête », c'est une chose, si vous voulez. Mais que ces éléments-là disparaissent quand on pratique, et notamment la forme institutionnalisée du sport qui est la compétition, ça c'est une autre, ça m'étonnerait, et je ne pense même pas que ce soit souhaitable d'une certaine manière. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais je ne crois pas qu'il serait tout à fait bon que toute violence, du moins dans sa dimension de révolte, disparaisse du sport.
Ainsi démoralisons ou amoralisons le sport, Denis Moreau.
Oui, alors moi je suis beaucoup plus moraliste que mon collègue, donc je n'ai pas de difficulté à condamner certains aspects du sport.
C'est votre cartésianisme qui s'exprime ici, allez-y Denis Moreau.
Et je n'ai pas de difficulté à rejoindre la sociologie critique du sport dans sa dimension d'attaque contre de nombreuses formes que prend le sport contemporain. Il me semble qu'il y a une certaine naïveté simplement à s'étonner qu'il y ait des problèmes, des difficultés ou un jour négatif dans le sport. Enfin, si on fait l'hypothèse que c'est une sorte de fait social total où s'exprime une société, si on fait aussi l'hypothèse que s'y exprime, comme on disait au début, certaines caractéristiques de l'animal sportif, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant qu'alors il y ait du négatif dans le sport? Enfin, c'est ce qui se passe dans le cas du dopage. Tout le monde crie très fort quand les gens se dopent, mais tout simplement, ce sont des gens qui trichent. Et que je sache, ce n'est pas nouveau de tricher, ce n'est pas spécialement sportif. Ce qui est peut-être plus étonnant, c'est le fait qu'on crie si fort sur le tricheur sportif quand on oublie toutes les autres formes de tricherie.
Denis Moreau, est-ce que la question du dopage ne permet pas de resituer le sport entre deux perspectives qui seraient celles, d'une part, de l'épanouissement de soi, hein, faites du sport pour vous épanouir, être bien dans votre corps, être bien dans votre peau, comme on dit, ce qui d'ailleurs suppose une dissociation du corps et de l'esprit, là encore, mais en gros, le sport comme un facteur d'épanouissement et le sport comme un facteur de compétition, c'est-à-dire où il s'agit de dépasser l'autre. En somme, est-ce qu'il n'y aurait pas une version orphique du sport qui consisterait à inscrire le corps dans la nature dont il est l'expression, et une version prométhéenne du sport qui déboucherait sur le dopage, qui consisterait à réduire le sport à l'esprit de compétition. Je pense ici au livre d'Isabelle Queval, dont le titre m'échappe à
S'accomplir
l'instant.
S'accomplir ou se dépasser.
S'accomplir ou se dépasser, un livre remarquable d'ailleurs.
Tout à fait, c'est un livre excellent qui met en place deux grands modèles pour penser l'activité sportive. Un modèle de l'accomplissement, donc réussir à porter à l'intérieur de limites raisonnables, au plus haut degré, les capacités qu'on porte en soi, et puis un modèle du dépassement, qui serait celui du toujours plus, du record. Il me semble, alors le seul aspect sur lequel je suis un peu en désaccord avec le livre d'Isabelle Queval, c'est qu'elle propose en fait ces deux modèles sous la forme d'une succession chronologique. Il y aurait une conception grecque du sport qui serait celle de l'accomplissement, et puis une conception moderne du sport qui naîtrait au XVIIe siècle avec les réflexions sur l'infini, la perfectibilité, qui serait le modèle du dépassement qu'on trouverait dans le sport contemporain. Il me semble que ces deux modèles ne sont pas réellement successifs historiquement, mais sont toujours affrontés comme deux possibilités qui sont sans doute même mêlées dans toute pratique sportive.
Mais en revanche, est-ce qu'on ne peut pas faire dater, alors pour me faire l'avocat d'Isabelle Queval, est-ce qu'on ne peut pas faire dater l'apparition de ce qu'on a appelé la violence dans le sport, avec justement l'idée d'un dépassement, d'une compétition? Pascal Taranto. Parce que en boxe, par exemple, un match de boxe est violent, mais ça n'est pas de la violence. En revanche, quand Mike Tyson arrache avec les dents l'oreille d'Evander Holyfield, là, on est dans la violence.
Oui, ou dans la faim, je ne sais pas. Mais
le sport grec était bien pire que le nôtre, c'était beaucoup plus violent. Il y avait des épreuves.
Le pancrace et le pugilat se terminaient assez régulièrement par des morts.
Oui, mais est-ce qu'on est dans la violence quand on est encadré dans la règle? Si la règle prévoit la possibilité qu'un des deux lutteurs meure, est-ce qu'on peut encore parler ici de violence?
D'une certaine manière, on est dans un processus qui est celui de l'euphémisation de la violence. C'est ce processus-là dont parlent Elias et Dunning dans leur superbe ouvrage. Sur le sport.
Citez-le. Vous avez le titre en tête ou pas?
Oui, attendez, il m'échappe un peu.
On le mettra en ligne sur Internet, les auditeurs pourront le retrouver. Allez-y, voilà. Pascal Taranto.
Donc, dans cet ouvrage, Norbert Elias montre qu'en réalité, le mouvement d'euphémisation du sport qui s'accomplit par la règle, qu'il appelle la sportisation, consiste à prendre le sport, si vous voulez, comme exutoire d'instinct de violence, à le transporter en pleine lumière, à en faire un spectacle, et dans le spectacle dans lequel, évidemment, les instincts sont cathartiquement livrés au spectateur, de telle sorte qu'il soit adouci. Mais, cela dit, je pense qu'il y a quand même toujours, et là, c'est encore une fois, c'est à Sartre que je reviens, une violence fondamentale qui est donnée en spectacle, au spectateur. Et cette violence fondamentale, elle n'est pas totalement réductible. Hein, puisqu'il s'agit toujours quand même de vaincre, et d'une certaine manière, le chaos dans la boxe, par exemple, est comme une sorte de mort symbolique, mais c'est un chaos, enfin c'est une mort qui a une valeur, parce qu'il y a toujours la possibilité de la mort réelle et du combat réel.
Si vous parlez de catharsis, c'est-à-dire de purgation des passions, hein, c'est le terme qu'Aristote emploie pour justifier l'usage de la tragédie, l'utilisation de la tragédie, la purgation des passions, la catharsis, donc, si vous parlez de catharsis, on peut peut-être alors à ce moment-là l'entendre de deux façons. On pourrait dire à la fois que le sport offre le spectacle de ce qu'on a appelé la sportivité, ou le fair play, et qu'à ce titre, donc, le sport offre érige en paradigme, en modèle des comportements qu'il faudrait avoir et une façon de respecter l'autre, et en même temps que le sport montre des images tellement hideuses, tellement détestables, qu'elles fonctionneraient peut-être comme un exutoire pour les spectateurs. Alors, on va entendre, justement, pour rester dans ce débat, coup sur coup, un capitaine de police qui parle des vertus du sport pour les jeunes, toujours après le Mondial en 98, et puis le commentaire de Jacques Vendroux à un geste hideux, pour le coup de Zidane. Je ne parle pas ici du coup de boule à Materazzi. Non, c'est le jour où il s'est essuyé les crampons sur le capitaine de l'équipe d'Arabie Saoudite. Écoutez.
On va faire quelques réflexions sur l'utilisation du sport et sur je ne dirais pas les dangers, mais en tout cas les précautions qu'il me semble devoir falloir prendre quand on utilise le sport. Nous considérons que le sport est un moyen pour faire passer des messages de citoyenneté, pour donner à des jeunes qui sont en perte de repères des règles d'abord de respect de soi-même et d'autrui, des respects de règles du jeu, des respects de vie en commun. Donc de ce point de vue-là, le sport est une chose tout à fait positive. Et effectivement, le mondial est un petit peu un événement sur lequel nous allons rebondir, puisque les jeunes parlent encore aujourd'hui des matchs et de la finale de dimanche. À ce titre, je dirais qu'à Bordeaux aussi, les banlieues ont été particulièrement calmes pendant la durée du mondial.
Ah oui, il a... Aïe, je l'ai vu, Zidane s'est vengé. Il est expulsé.
Zidane est expulsé à la suite, bien sûr, d'une parole.
Non, c'est pas une parole, Jacques. Oui. Il s'est vengé, regardez. Il a mis un coup de... Il a marché dessus.
On voit bien l'action. On voit bien l'action.
Et l'arbitre qui est juste à côté. Expulse immédiatement Zinedine Zidane pour cette faute, qui est une faute, disons-le, stupide. Et il le disait hier à Clairefontaine, Zidane. J'en ai conscience. C'est vrai que j'ai fait une idiotie en prenant ce carton jaune. Et là, il fait une énorme boulette en se vengeant sur la faute, qui est une grosse faute, une méchante faute. Mais lui, c'est une grosse boulette. C'est terrible, ça.
Ça fait mal. Ça fait très mal, ouais.
Zidane expulsé, ça c'est quand même aussi quelque chose d'extrêmement important. Il a marché sur Amine Fouad, le capitaine de cette équipe saoudienne. C'est vrai que quand on regarde l'action, Alain, vous qui avez été joueur de haut niveau, ça ne se fait pas. De toute façon, il ne s'agit pas d'enfoncer Zidane, parce que c'est un merveilleux joueur. Mais là, vraiment, ça ne s'imposait vraiment pas.
Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football.
La Mano Negra sur France Culture, un merveilleux, merveilleux groupe. La Mano Negra et Pascal Taranto et Denis Moreau qui sont avec nous pour parler de philosophie du sport. Pascal Taranto, on vient d'entendre coup sur coup les paroles d'un capitaine de police qui parlait des vertus du sport pour les jeunes. Donc citoyenneté, retour des repères, n'est-ce pas, dans un monde en perte de valeur, c'est bien connu. Respect de soi-même et d'autrui, en guise de quoi on a l'idole par excellence des banlieues, celle qui était calme le jour de la finale, l'idole par excellence des banlieues qui montre au monde entier comment on peut marcher sur le joueur qui vous a manqué de respect. Qu'en dites-vous ?
Ben, écoutez, moi, alors, ce que dit notre agent de police, là, je le réfère de la même manière tout à l'heure, lorsque Marie-Georges Buffet...
Un discours moral.
Voilà, un discours moral et moralisant et moraliste, un discours de politique, où donne ses organes, bon, en l'occurrence, la police. Bon. Mais ce que je vois surtout, c'est que le match de football ici est une sorte de laboratoire, ou une artificielle, si vous voulez, d'expérience éthique. Parce qu'en réalité, sur la semelle de Zidane, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a trois possibilités, disons. D'abord, on peut dire, il n'a pas respecté la règle, c'est pas bien. Et au lendemain de son coup de boule contre Materazzi, les gens disaient, qu'est-ce que je vais pouvoir dire moi dans mon club de football quand je dis aux jeunes, écoutez, il ne faut pas faire ce genre de geste. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, on peut dire aussi d'une certaine façon, cette semelle, le commentateur dit, il me semble, il s'est vengé. Donc autrement dit, il y a dans le jeu lui-même une sorte déjà de théâtre de l'insulte, de la contre-insulte, de la provocation, etc. Et ce que fait Zidane ici, c'est apporter le point final à une histoire d'honneur, ouvrez les guillemets, bien sûr. Donc il se venge. Donc en réalité, ce n'est pas un geste ni irrationnel, ni déterminé par une agressivité qui serait spécialement celle de Zidane, mais c'est peut-être de la part du capitaine de l'équipe d'Algérienne un moyen pour énerver Zidane et le faire sortir du jeu.
C'est l'équipe saoudienne,
excusez-moi,
allez-y.
Saoudienne. Pour le faire sortir du jeu, et c'est une manière qu'a eu Zidane de se faire prendre là-dessus. Bon, d'accord, donc c'est autre chose. De ce point de vue-là, un autre code moral dirait, et d'autres personnes l'ont dit de la même manière au lendemain de son coup de boule, il a eu raison de le faire. On ne se laisse pas insulter comme ça. Bon, c'est une chose. Et le troisième point intéressant aussi, c'est le rôle de l'arbitre. Parce que l'arbitre peut laisser continuer. Si lui-même, il a assisté à cette espèce de montée, si vous voulez, des insultes et des contre-insultes, il peut laisser continuer le match ou il peut décider de l'arrêter. Comme l'a fait, lors de son fameux épisode du coup de boule, l'arbitre qui a vu, si vous voulez, le mauvais geste de Zidane. Donc ici, c'est assez compliqué parce que ce qu'apprend ce match de football, mettez-vous à la place de Zidane ou d'un autre footballeur, c'est deux choses. D'abord, apprendre la frustration. Ne pas répondre à quelqu'un, donc apprendre la maîtrise de soi, mais aussi apprendre l'injustice. Parce qu'il ne peut pas, si vous voulez, fondamentalement, tenir pour juste que quelqu'un qui, par exemple, a commis plusieurs mauvais gestes, s'en sorte bien à la fin. Et d'une certaine manière, il intervient comme une sorte de justice immanente. Je ne dirais pas que l'apprentissage de la justice peut se faire sur un terrain de football. Chez les enfants, c'est très abstrait, la justice. En revanche, l'apprentissage de l'injustice, ça peut se faire. Parce qu'on sait ce qui est injuste, on le ressent. Voilà. Donc, je ne juge pas ici, mais j'essaie de comprendre, comme dirait Spinoza, toutes les choses qui peuvent, dans un match de football, surgir comme sentiments moraux positifs ou négatifs et la manière dont les gens, ensuite, font quelque chose pour leur expérience.
Albert Camus disait que tout ce qu'il savait de la morale, il l'avait appris sur un terrain de foot. Exactement. Où lui-même était gardien de but, Denis Moreau.
Bon, l'expulsion de Zidane, on en a beaucoup parlé. Effectivement, qu'est-ce que
celle-là,
ça montre,
hein, celle de 98, il y en a eu plusieurs des expulsions de Zidane.
Les deux grandes expulsions de Zidane.
Les deux grandes expulsions.
Elles montrent l'ambivalence fondamentale de la nature humaine et ça montre aussi comment le football, d'une certaine manière, s'est substitué, comme le sport, le football ici s'est substitué à d'autres types de discours, notamment je pensais au discours mythique. Je n'ai pas tout à fait les mêmes références que Pascal Tarotto. On était parti sur Saint-Paul. L'histoire de Zidane, c'est celle du péché originel. C'est celle de quelqu'un, notamment lors de la finale de la Coupe du Monde, qu'on place dans des situations pour que tout aille bien, pour qui tout va au mieux, à qui tout s'offre pour mener une vie extraordinaire et qui pourtant fait des bêtises. Et qui pourtant fait des bêtises, comme Adam et Ève, dont la faute fut sanctionnée, il faut s'en rappeler, par une expulsion. Expulsion du paradis. De même,
carton rouge divin.
Carton rouge divin,
feuille
ce soir-là.
Feuille de vigne rouge, oui, c'est voilà. Pascal Taranto qui l'a ajouté. Oui. Mais donc, revenons-en à l'expulsion de Zidane.
L'expulsion de Zidane nous apprend effectivement que la nature humaine est fondamentalement ambivalente. Et en ce sens, le spectacle sportif est peut-être notre façon contemporaine d'aborder de grandes questions éthiques qui se posaient dans d'autres configurations culturelles, par d'autres moyens, notamment par les médias.
Mais est-ce que justement, l'expulsion de Zidane n'est pas... Et si l'expulsion de Zidane n'était pas tout simplement une affaire de droit plutôt que de morale? Après tout, le rôle d'un arbitre, c'est de faire respecter la loi. La loi prévoit qu'on ne mette pas un coup de boule ni qu'on s'essuie les crampons sur son adversaire. Mais il ne s'agit peut-être pas de morale là-dedans. En revanche, d'un point de vue moral, on pourrait considérer que Zidane est lui-même détenteur de la morale dans la mesure où il refuse d'être le paradigme, le modèle de vertu, de réussite ou d'intégration qu'on lui demande d'être. Et qu'en somme, en accomplissant ce genre de geste, il s'affranchit de l'image qu'on a déposée sur lui.
Vous Pascal avez raison. Taranto. Oui, mais je pense que l'arbitre dans un match de football n'est absolument pas comme un arbitre dans un match de tennis. Si vous voulez. Il n'y a pas de positivisme juridique au football. Il y a toujours une herméneutique ou une interprétation de la faute ou pas de la faute. C'est beaucoup plus difficile de juger. Donc, d'une certaine manière, l'arbitre fait vraiment partie du match et il le fait. Tous les footballeurs savent ça. Un arbitre peut tout à fait faire tourner un match. Hein. Donc, voilà.
Donc, vous voyez bien, ça fait penser.
Denis Moreau, ce sera le mot de la fin. Grand merci à tous les deux, Denis Moreau et Pascal Taranto. Denis Moreau, Pascal Taranto, vous êtes tous les deux philosophes, accidentellement. Pour l'essentiel, Denis Moreau, vous pratiquez la course à pied. Pascal Taranto, vous pratiquez la boxe et l'haltérophilie. C'est de votre livre collectif, hein, un livre collectif qu'on vient de parler ensemble, que vous avez dirigé, Activité physique et exercice spirituel, paru chez Vrin dans la collection Pour Demain en 2009. Un excellent livre. Suite demain de cette semaine sur la philosophie du sport dans les nouveaux chemins de la connaissance, je recevrai Denis Grosdanovic qui viendra vous parler de la philosophie du tennis à l'occasion de son livre, à propos de son livre de l'art de prendre la balle au bon, un précis de mécanique gestuelle et spirituelle paru chez Lattès en 2007. À la technique aujourd'hui, Alexandre Dang, à la réalisation Christine Digère, assistant et collaboration Geneviève Méric, Adèle Van Red, Jennifer Murzo et Igor Kortolitsa. Un grand merci d'ailleurs à Igor pour le travail accompli, travail préparatoire à cette émission. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, on retrouve Albert Jacquard.